Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles une fois de nouveau dans 1 Timothée chapitre 1. Et aujourd'hui, mon texte est à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Et je voudrais vous parler de l'unique évangile de Dieu, l'unique évangile de la grâce de Dieu et son importance. Pourquoi nous qui sommes appelés du Seigneur à prêcher l'Évangile, nous devons prêcher plus que jamais ce message de Christ et de l'Évangile, de la grâce souveraine de Dieu de nos jours, exactement comme au jour de Paul et les paroles qui s'adressent ici à Timothée. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 3, il appelle à Timothée, disant, je te rappelle, c'est l'exhortation que je fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et nous avons déjà vu que lorsque dans la Bible, doctrine se trouve au pluriel, il s'agit toujours des fausses doctrines. Et c'est là que je voulais insister sur le fait qu'il n'y a qu'un seul véritable évangile, c'est la doctrine de Christ. Jean, dans son épître, a dit que si quelqu'un vient annonçant autre doctrine que la doctrine de Christ, de ne pas le recevoir, même pas. La même bataille continue aujourd'hui, parce qu'aussi longtemps que le monde existe, il y aura des fausses doctrines, des faux docteurs, des faux prédicateurs. C'est comme un cultivateur, lorsqu'il prépare le champ pour semer la bonne semence, il anticipe qu'il y aura tant d'ivraies qu'il doit aussi enlever tout en cultivant le champ. Et c'est comme ça avec nous aujourd'hui dans la prédication de l'Évangile. Donc, il écrit ici à Timothée qu'il avait laissé à Éphèse lorsque lui, Paul, est retourné à Macédoine, ce qui est aujourd'hui dans la partie du monde qu'on connaît comme la Grèce. Et donc le Seigneur place ses serviteurs là où il veut pour l'enseignement de l'Évangile et la doctrine de Christ. Donc, nous voyons l'urgence ici avec laquelle Paul écrit à Timothée, disant de recommander à certaines personnes, ce mot recommander dans verset 3, un peu plus fort que simplement suggérer. Il n'est pas simplement en train de suggérer à Timothée qu'il doit plus que jamais enseigner l'Évangile ou d'inviter certaines personnes à ne pas enseigner d'autres doctrines. Non. Ça, c'est un commandement, c'est un ordre que Paul est en train de donner ici à Timothée. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Ça nous montre ici que tout ce qui n'est pas l'évangile de Christ n'est que des fables, de bavardage, si vous voulez, des généalogies sans fin. Il y a des gens qui aiment, ils sont comme des historiens, ils aiment aller dans la Bible et tracer les racines de chaque tribu, de chaque personne, comme s'il y a d'importance dans ces choses. Et surtout, pour ceux à qui Timothée devait prêcher, ils étaient des Juifs, et ils se fiaient toujours dans leur généalogie. Pourtant, nous savons qu'en lisant la Bible, que les généalogies qui était bien gardé dans l'Ancien Testament avait un seul but. c'était de tracer l'histoire du Seigneur Jésus-Christ et l'histoire de la rédemption jusqu'au début, c'est-à-dire jusqu'à Adam. C'est la manière que Dieu a ordonné à ce que son Fils vienne d'une ligne particulière et avoir depuis Adam, Abraham, David, ouais, jusqu'à Christ. Mais il faut poser la question, si maintenant que Christ est venu et que tout est accompli, est-ce que c'est nécessaire alors de continuer à garder ces généalogies? Et la réponse est non, puisque celui que l'Ancien Testament annonçait, qui devait venir, est déjà venu. Et donc, étant venu, alors toute l'histoire de l'Ancien Testament s'est culminée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà ce que les faux prédicateurs du jour, les judaïstes, les juifs qui confrontaient le message de l'Évangile en imposant leur propre enseignement et doctrine concernant leur histoire. Il y en a qui sont comme ça aujourd'hui, ils veulent toujours garder l'histoire juive comme c'est encore important, mais tout avait son but dans le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus a crié de haute voix de la croix, tout est accompli, c'est accompli. Nous ne devons pas prendre cette Bible et enseigner l'Ancien Testament en vue de la nation juive. Non. Tout concerne le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Christ a dit aux pharisiens lorsqu'il était encore sur cette terre, qu'il cherchait les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle. Mais il dit, ce sont elles qui témoignent de moi. Voilà comment nous pouvons distinguer un véritable prédicateur de l'unique évangile de Christ par rapport à des multitudes de faux prédicateurs qui prennent cette même Bible que nous avons, mais ils sont des historiens, ils aiment prêcher l'histoire de la nation juive et ils ont encore l'idée que dans l'avenir, lorsque l'Église, voilà comme ils prêchent, l'Église sera enlevée et ensuite Dieu reprendra encore son programme avec la nation juive. Donc ils continuent à vouloir élever cette nation juive au-dessus de tout. Pourtant, en tant que nation, cette nation d'Israël n'a plus de signification, pas plus que d'autres nations. Seulement là où Dieu a ses élus, qu'il a choisis depuis l'éternité, et pour qui Christ, le Sauveur, est mort, il doit les amener en prêchant l'Évangile. Mais le sujet de la prédication des véritables serviteurs de Dieu n'est pas l'histoire des Juifs ou bien des prophéties concernant la nation juive, mais uniquement Christ, et ce que Christ a accompli. Qui il est, pourquoi il est venu et pour qui il est venu. Ce n'était pas simplement pour des Juifs, mais pour les pécheurs du monde entier qu'il a choisi et pour qui Christ a donné sa vie. Alors, voilà la signification de ce que Paul recommande ou enseigne à Timothée ici, de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas dévier de ce message unique qui donne toute la gloire au Seigneur Jésus et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Notez qui produisent des discussions plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Voilà encore un point important. Non seulement l'évangile unique que nous avons annoncé, mais de la manière que nous prenons ces écritures inspirées et nous les utilisons, il ne faut pas que ça soit dans des discussions qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Notez bien, l'œuvre de Dieu dans la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la révélation de Dieu que nous avons ici dans les Écritures. Concernant Christ et Christ crucifié, voilà la foi. Ça, c'est la foi qui a été une foi transmise aux saints, selon ce que Jude lui-même a annoncé. Il n'y a qu'une seule foi. Notez même ici, même le mot « l'œuvre » est au singulier, comme en ce qui concerne l'Évangile, c'est la doctrine du Christ. Ici, c'est d'avancer l'œuvre, pas les œuvres, mais l'œuvre de Dieu où? Dans la foi. Toute l'œuvre de Dieu en vue, cette foi, c'est la révélation du Christ. La foi, ici, c'est la doctrine encore du Christ, de l'Évangile révélé ici dans les Écritures inspirées. Nous prêchons la foi. Ce n'est pas une croyance personnelle de chacun, ça ce n'est pas la foi que nous voyons dans la Bible, mais la foi, ça concerne Christ, sa personne, et son œuvre qu'il a dû accomplir afin que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs. Donc, c'est ainsi que Paul précise en disant dans le verset 5, le but du commandement. Quel commandement? Ce qu'il vient de commander à Timothée, le but de ce commandement, de savoir autre chose que Christ et Christ crucifié, le but de ce commandement. Notez, il dit, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La charité, ça c'est l'amour. Pourquoi est-ce que nous prêchons l'évangile du Christ? C'est à cause de son amour envers nous qui sommes des pécheurs, mais maintenant, cette foi nous étant révélée, nous l'annonçons à d'autres par l'amour de Dieu, par l'amour du Christ. Ce n'est pas une exigence, mais ce qui motive chaque prédicateur de l'évangile, c'est un amour non seulement de Dieu, mais pour ceux à qui nous prêchons. Pourquoi est-ce que nous prêchons avec ce but de ne savoir autre chose que Christ et Christ crucifié? C'est à cause du fardeau que nous avons pour ceux à qui nous prêchons. Le mot charité là signifie de faire quelque chose de bien pour quelqu'un. Nous ne pouvons faire mieux que d'annoncer Christ à un monde perdu. Et quel que soit leur état de perdition, si ils sont élus de Dieu, donc c'est par amour pour leur âme. Et c'est par amour pour la gloire de Dieu que nous leur annonçons cet évangile de Christ. Notez, venant d'un cœur pur. Nous savons que aucun de nous n'a un cœur pur, mais sauf dans ce sens que c'est un cœur purifié par le sang du Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous prêchons aux autres, nous sommes des témoins d'abord de ce que Dieu, dans sa grâce, nous a fait en Jésus-Christ, et ayant ce cœur purifié, c'est-à-dire lorsque l'Esprit de Dieu révèle Christ en nous, il nous donne un nouveau cœur dans ce sens, parce que nous avons toujours ce cœur de nature dans la chair, mais ce cœur pour connaître Christ et de chercher après sa justice, ce qu'il a accompli pour des pécheurs tels que nous sommes. Telle est la manière que les serviteurs de Christ prêchent cet unique évangile. Ce n'est pas simplement pour informer l'auditoire. Non, nous prêchons ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu par la grâce de Dieu, et cela d'un cœur pur, un cœur purifié par le sang du Seigneur Jésus. Donc c'est pourquoi Paul dit ici dans le verset 5 d'Intimothée 1, le but du commandement, ce commandement-là de prêcher Christ et Christ seul, c'est venant d'un cœur pur. C'est par l'amour de Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ envers un pécheur tel que nous sommes, que nous annonçons Christ. Et d'une bonne conscience, de prêcher l'évangile de Christ, c'est de prêcher d'une bonne conscience encore, une conscience purifiée des œuvres mortes. Nous ne sommes pas en train de tantôt prêcher des œuvres, puis prêcher l'œuvre de Christ. Non, prêcher d'une bonne conscience, sans tâtonner le message de Christ et Christ crucifié, sachant, ayant cette persuasion qu'il n'y a pas d'autre message. Quelqu'un qui n'a pas eu la révélation de Christ en lui ne peut pas prêcher d'une bonne conscience, surtout ceux qui prêchent la loi. Parce qu'ils prêchent aux autres ce que eux-mêmes, ils ne peuvent même pas accomplir. La loi ne peut que nous condamner. Donc ceux qui veulent se mettre devant les hommes et prêcher la loi comme si ils ont besoin de satisfaire à cette loi, mettant de côté l'œuvre de Christ, ne peuvent pas prêcher d'une bonne conscience. Leur conscience doit être toujours troublée et bouleversé, même s'ils ne disent pas. Mais où je suis là, ayant eu la révélation de Christ dans mon cœur, chaque fois que je me lève, je peux prendre n'importe quel verset de cette Bible et prêcher Christ d'une bonne conscience, sachant que c'est lui qui est l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et je ne suis pas en train de mettre un fardeau sur ceux à qui je prêche, que moi-même je ne peux pas porter. Dire aux gens d'aller vivre une vie pure et essayer de satisfaire à la sainteté de Dieu de par leurs œuvres. Je ne peux pas prêcher de cette manière d'une bonne conscience, sachant que l'homme est incapable et moi-même je suis incapable. Et ce que je peux faire, c'est prêcher d'une bonne conscience que Christ lui-même est l'accomplissement de tout ce qui est écrit. N'importe quel verset de la Bible, Christ y est comme celui qui a accompli cette loi à l'égard des pécheurs tels que je suis. Alors, voilà pourquoi Paul donne ce commandement à Timothée de prêcher d'une charité venant d'un cœur pur et prêché d'une bonne conscience et, notez bien troisièmement, d'une foi sincère. Nous avons vu autre part que le mot sincère provient du mot sentir. Et ceux qui faisaient des pots d'argile pour mettre l'eau dedans puis aller vendre au marché, souvent s'il y avait des fissures dans ces pots, ils prenaient un peu de cire pour remplir la fissure, et puis aller vendre. Et ça peut durer combien de temps? Une fois que celui qui a acheté le pot l'a amené à la maison et mettait ça sur le feu, qu'est-ce qui s'est passé? La cire, maintenant, se fondait, et puis, voilà, la fissure était exposée. C'est comme ça, beaucoup prêchent, hein, prêchant une foi avec si, c'est-à-dire c'est ajouté à cela, c'est l'œuvre, les œuvres des hommes qui remplit les fissures. Mais en prêchant Christ et Christ crucifié, nous avons une foi sentie, une foi sincère. C'est-à-dire, il n'y a pas de défaut dans la prédication de l'évangile de Christ, parce que ça exalte le Seigneur Jésus-Christ. En toute chose, face à la loi, où est mon espoir? C'est dans le Seigneur Jésus-Christ qui a accompli cette loi. En ce qui concerne la sainteté de Dieu, moi-même, je ne peux pas répondre à cette sainteté, mais c'est Christ qui est cette réponse. C'est Christ le substitut à la place du pécheur qui répond à la sainteté de Dieu, et c'est uniquement en lui alors que nous avons cette sainteté devant Dieu. Ça, c'est une foi sincère, sensible, sans ajouter quoi que ce soit pour pouvoir rendre cette foi effective. Non. Christ a tout accompli. Alors, c'est ça le commandement. Et c'est simple, n'est-ce pas? Trois choses mentionnées. Lorsque nous prêchons d'une charité venant d'un cœur pur. C'est par amour, l'amour de Dieu pour moi et l'amour à travers moi pour ceux que Christ est venu sauver. Ça, c'est une charité venant d'un cœur pur et une bonne conscience. Si je suis en train de prêcher la vérité, je n'ai pas besoin d'essayer de rendre le message d'une manière à ce que l'homme puisse l'accepter. Non. Une bonne conscience. Je me lève et je prêche Christ et Christ crucifié, sachant que je n'ai pas besoin de prêcher autre chose. Et puis d'une foi sincère. Sincère parce que c'est la foi que Dieu dans sa grâce a révélée en moi. Et donc, c'est cette foi alors que j'annonce aux autres. Et c'est Dieu qui œuvrera à travers la prédication comme il veut. Et c'est là que Paul avertit Timothée disant dans le verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Notez bien ce mot. Si quelqu'un se lève pour prêcher, mais il ne prêche pas Christ et Christ crucifié tel qu'il est révélé ici dans les Écritures, donc ce n'est que de vains discours. C'est écrit, ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne sont pas satisfaits avec le message de la foi qui est Christ, mais ils veulent être docteurs de la loi. Ils aiment ce titre, docteur. Mais c'est écrit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Pourquoi? Parce que Christ n'a jamais été révélé en eux. Les gens courent après de tels hommes et les apprécient pour leur connaissance. Mais si ce n'est pas Christ qui prêche, et ça prend cet écrit verset 7, ils veulent être docteurs de la loi. Cela veut dire qu'ils mettent la loi au-dessus même de l'œuvre de Christ. Ils placent la loi devant les hommes comme si c'est ça qu'il leur faut, plutôt d'annoncer Christ qui est l'accomplissement de la loi. Il y en a qui vont nous accuser pour dire, mais donc vous supprimez l'Ancien Testament entier parce que vous ne prêchez pas la loi. Non, nous prêchons la loi accomplie. Donc si nous retournons dans l'Ancien Testament, c'est pour chercher Christ et de savoir comment Christ a accompli la loi à l'égard des pécheurs tels que nous sommes. C'est pourquoi, dans le verset 8, Paul dit ça. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Il y en a qui nous écoutent en prêchant l'unique message du Christ, qu'ils disent, ah, mais vous êtes contre la loi. Non, la loi est bonne. Mais, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, quel est un usage légitime de la loi? Ce n'est pas de l'annoncer aux hommes comme si ils ont la capacité d'accomplir la loi. Non. Ça, c'est un usage faux, mais un usage légitime de la loi, c'est de montrer trois choses. Premièrement, que la loi a été donnée comme révélation de la sainteté de Dieu. C'est pour révéler la sainteté de Dieu. Donc, lorsque nous prêchons la loi, c'est pour que, c'est comme Paul a dit dans son épître aux Romains, afin que toute bouche soit fermée et tout le monde se trouve coupable devant Dieu. Ça, c'est dans Romains chapitre 3, c'est le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc ça, c'est le bon usage. Ça, c'est l'usage légitime en prêchant la loi, de condamner chaque pécheur qui écoute. Parce que la loi ne donne aucun espoir sans une obéissance parfaite. Et puis, deuxièmement, l'usage légitime de la loi, non seulement c'est de révéler la sainteté de Dieu, mais deuxièmement, la culpabilité de l'homme, afin que tout le monde se trouve coupable, soit rendu coupable, reconnu coupable devant Dieu. Il y en a qui prêchent la loi d'une manière comme si l'homme s'efforce, bon, Dieu peut accepter ses meilleurs efforts. Ça, ce n'est pas un usage légitime de la loi. Non, c'est afin que l'homme se voit coupable, entièrement coupable devant cette révélation de la sainteté de Dieu. Alors, lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, nous lisons ce que Dieu a donné comme ordre et commandement. Ce n'était pas, Dieu n'a pas donné cette loi imaginant que l'homme pouvait être capable d'obéir. Non, la Bible dit la loi a été ajoutée, encore revenant dans Romains chapitre 3, a été ajoutée afin que la connaissance du péché soit de plus évident. C'est écrit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, Romains 3, 20, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc si quelqu'un lit l'Ancien Testament, ou nulle part, quelque part dans les Écritures, parce que la loi comprenne la parole de Dieu, et que en lisant cette loi, un tel ne se voit pas condamné devant Dieu par cette loi, donc c'est qu'il est aveugle. Il y avait des jours, des années où je pensais que en lisant la loi, je pouvais moi-même m'efforcer, et je disais avec ça, par la grâce de Dieu. Ils agissent toujours par la grâce de Dieu. Non. Si c'est la grâce de Dieu, donc ça supprime entièrement le pécheur, le mettre de côté, et sa place crée comme le seul espoir. Et donc ça, c'est le troisième but de la loi, et pour ça, un usage légitime, c'est que la loi donne toute la gloire à Christ, comme celui qui est venu l'accomplir, envoyé par le Père, comme le substitut, de satisfaire à tout ce que la loi et la justice de Dieu exiger afin que Dieu alors soit juste tout en justifiant les pécheurs pour qui Christ est venu. Alors c'est ça que Paul est en train de dire ici à Timothée. Nous n'ignorons pas, dans le verset 8, 1 Timothée 1, 8, que la loi est bonne. Pour cela, je remercie le Seigneur d'avoir ouvert mes yeux envers la loi et à travers la loi de comprendre que Dieu est saint, et comprendre aussi combien je suis pécheur, condamnable, mais aussi de comprendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu accomplir et satisfaire à la loi de Dieu, afin que Dieu puisse et soit juste, justifié, déclaré juste, sans péché, à cause de l'œuvre de Christ, face à la loi. Ça, c'est l'usage légitime. C'est écrit dans le verset 9, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. C'est-à-dire, la loi ne peut plus me condamner. Après, c'est la loi contre moi, n'est pas possible parce que Christ a déjà achevé, il a déjà accompli tout ce que la loi exigeait de ma part. Donc, une autre manière de lire ça dans le verset 9, c'est sachant bien que la loi n'est pas faite pour le justifier, pour celui qui est justifié, parce qu'il n'y a point de juste, à part ceux que Dieu a justifié par la justice et le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Mais, sa force est pour, c'est écrit verset 9, les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, verset 10, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire, notez bien ici, encore au singulier, à la saine doctrine. Notez tous ceux qui sont mentionnés ici dans versets 9 et 10. D'autres lisent ça et disent, ah, mais ça, c'est des gens dans le monde. Non. Il s'agit de tous ceux qui s'opposent à la saine doctrine. C'est-à-dire que s'il y en a qui ne veulent pas écouter ce message unique de Christ crucifié et la justification dans son sang versé. C'est là la foi que Dieu a justifié une fois pour toutes. Chaque pécheur pour qui Christ est mort. S'il y en a qui s'opposent à ce que Paul ici, à cette sainte doctrine, ils ne sont pas mieux que ceux qu'ils considèrent comme des méchants, des rebelles. Ils sont eux-mêmes de même nature. Et ils souffriront la même condamnation que ceux qu'ils condamnent. Quand on considère qu'il s'agit ici de beaucoup de gens qui se considèrent comme religieux et comme enfants de Dieu, pourtant ici, la Bible les appelle des pécheurs, des irréligieux et des profanes. Ils ne se voient pas comme ça, mais c'est là la déclaration de Dieu les concernant. Et c'est ça qui fait qu'ils se fâchent. Je dois dire, si vous allez dans n'importe quelle assemblée aujourd'hui qui se dit chrétien, ou bien assemblée de Dieu, ou peu importe, le titre, et vous prêchez de cette manière, vous allez voir susciter dans les cœurs de ceux-là qui se considèrent comme juste et pur devant Dieu une colère. Parce qu'ils ne veulent pas que le salut soit uniquement dans l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ, sans les œuvres. Parce qu'ils tiennent ils sont des idolâtres, ils tiennent une importance à leur marche, ou bien à leur manière de vivre, qu'ils considèrent comme ayant de valeur devant Dieu. Mais ceux qui raisonnent de cette manière, c'est clair, ils ne sont pas mieux qu'eux, les méchants, les rebelles, c'est ceux qui sont les impies, les pécheurs. Et la raison, c'est que sans l'œuvre de Christ, il n'y a pas de pardon de péché. Sans l'œuvre de Christ, il n'y a pas de justification. Mais là où l'œuvre de Christ a été accomplie à l'égard d'un pécheur, donc il n'y a plus de péché, il n'y a plus donc de condamnation, parce que Christ a tout enlevé. Donc ça, c'est le message unique de l'évangile de la grâce de Dieu que nous avons à annoncer. Paul le dit dans le verset 11. Que tout ce qui n'est pas conforme à cet évangile, notez, l'évangile, encore au singulier, c'est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Un seul évangile. Encore, il y a des soi-disant évangiles qui sont prêchés dans le monde. Mais si ce n'est pas l'évangile qui donne toute la gloire à Dieu, ce n'est pas l'évangile, toute la gloire à Christ. Paul lui-même a signalé cela lorsqu'il écrivait aux Galates. Et vous voyez, ce que Paul devait confronter de son jour, nous avons à confronter aujourd'hui. Mais nous devons prêcher cet unique message de la grâce de Dieu en Christ, sans compromis. Paul lui-même a dit ça aux Galates, dans le verset 6. C'est une région du monde en Asie mineure, ce qu'on comprend aujourd'hui comme la Turquie. Et c'est là qu'il allait prêcher. Mais il dit dans le verset 6 de Galates 1, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Mais il dit immédiatement, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Notez au singulier, un seul unique évangile. C'est l'évangile qui donne toute la gloire à Christ, sans ajouter quelques œuvres ou quelques efforts de l'homme. Non, toute la gloire revient à Christ, à son obéissance à la loi. Et en satisfaisant la pénalité de la loi, ce qui est la mort, il y avait ces deux aspects de la loi qu'il fallait. La loi exige une obéissance parfaite. Aucun de nous ne peut satisfaire. Mais Christ a obéi parfaitement à la loi. Mais ça exigeait aussi la peine de la loi, ce qui est la mort. Nous mourons parce que nous sommes des pécheurs. Donc notre mort ne peut jamais satisfaire à la loi, parce que nous mourons parce que nous sommes coupables. Mais Christ n'est pas mort parce qu'il était coupable de quoi que ce soit. Il a donné sa vie en rançon. Et c'est ainsi qu'il a satisfait cet aspect de la loi aussi à l'égard de ce que le Père lui a donné. Ce n'est pas pour tout le monde. Si c'était pour tous les êtres humains, donc personne ne sera condamné. Il n'y a plus de condamnation. Mais nous savons, comme nous lisons ici, que la loi, Paul dit, n'était pas pour les justes, mais pas faite pour ceux que Dieu a déjà justifiés. Nous sommes justifiés en Christ, mais pour le reste, ça continue à servir comme leur condamnation. Donc Paul dit ici, non pas qu'il y ait un autre évangile, Galates 1:7, il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile. Comment renverser l'évangile? C'est d'ajouter quoi que ce soit de l'homme à cet évangile pour dire, ah voilà, c'est la coopération de l'homme et de Dieu qui fait maintenant le salut, non. Mais quand nous-mêmes, il dit, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit, notez bien ce mot fort, anathème, condamné éternellement. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est là pour dire, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désigne ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ce n'est pas compliqué de comprendre. Mais seulement ceux qui ont Christ révélé en eux, comme Paul décrit ici, à Timothée, pourront continuer à toujours prêcher Christ et Christ crucifié, sans déviation, sans détour. Et c'est à cela que nous sommes appelés, nous qui sommes les serviteurs de Christ. Nous avons autre message, autre doctrine, autre évangile que Christ et Christ crucifié. Amen.